Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le mercredi 18 mars 2026. Alors, sur le papier, il faut dire que c'est pas mal. Les indices ont rebondi là où il fallait et les marchés donnent l'impression d'avoir retrouvé un semblant de calme. La volatilité a reperdu 35% depuis les extrêmes de lundi dernier. Pourtant, rien n'a changé. Le pétrole est toujours notre guide au milieu de la nuit et les indices se contentent de regarder où il va pour savoir ce qu'ils doivent faire. Le détroit d'Ormuz est toujours fermé, sauf pour certains bateaux validés par les Iraniens. Et à New York, on commence à trouver normal ce qui est en train de se passer. Et selon les derniers sondages, on parie sur une guerre courte. Reste plus qu'à voir ce que la Fed va nous faire ce soir. Hier matin, quand je suis arrivé, mis à part le pétrole, tout le monde n'avait d'yeux que pour Nvidia et les contrats de Meta. Mais 24 heures plus tard, Nvidia n'a même pas bénéficié des annonces dithyrambiques de lundi soir. La boîte à Zuckerberg baisse depuis deux jours et Nebius, qui va bénéficier des largesses de Meta, s'est repris une claque dans la foulée de lundi. Tout ça parce qu'ils vont lever 3,75 milliards pour construire et développer des data centers. Oui, parce que c'est bien gentil de vouloir vendre de la puissance de calcul à Facebook et Instagram. Faut-il encore avoir du matos qui tient la route? Du coup, la fête technologique a plus l'air de continuer en Asie, puisque le GTC de Nvidia n'a pas profité à Nvidia eux-mêmes. En revanche, ça a profité à des boîtes comme Samsung ou Hynix. Comme Jensen nous a ressorti de grands récits de l'IA qui va tout changer, tout révolutionner et surtout tout justifier en termes de valorisation, les fabricants de puces ont repris leur costume de rockstar, boosté par des partenaires flamboyant et flambant neuf et des annonces qui sentent bon le futur. Peu importe si tout cela est crédible, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le storytelling est bien emballé et que ce matin, l'Asie appuie sur le bouton turbo. Le Kospi en Corée prend 4% quand même, comme si de rien n'était, et le Nikkei, lui, grimpe de 2,5% pendant que le Topix se suit gentiment avec plus de 2% de hausse. En bien général, tout le monde veut sa part du gâteau IA, même si personne ne sait encore vraiment combien il va peser au final, et comme si ça ne suffisait pas, le pétrole a légèrement reculé en début de séance mercredi. Traduction, une petite dose d'optimisme en plus, histoire de rappeler au marché que quand le pétrole se calme, tout devient soudainement beaucoup plus gérable, même s'il ne faudra pas oublier que le pétrole est capable de nous faire tout et n'importe quoi, sauf que dorénavant, les 100 dollars sont devenus le new normal et que ça ne fait plus peur à personne. Notre capacité d'adaptation est tout bonnement sidérante. Hier, c'était encore une de ces journées où tout allait bien et où nous étions capables de tout justifier pour avoir une très, très, très belle histoire. Et puis alors le baril, parlons-en. Sans revenir sur le sketch de mardi matin avec les tankers qui traversaient le détroit d'Ormuz, tels les rois mages qui se rendaient à Jérusalem ou au bal masqué, le baril fait preuve d'une capacité inouïe à nous faire faire tout et n'importe quoi. À côté de ça, les actions comme GameStop font office de placement de père de famille. Si l'on doit résumer ce qui se passe actuellement sur le baril, on retiendra d'abord que du côté conflit, rien n'a changé. Le détroit est ouvert mais laisse passer des tankers au compte-gouttes et comme les Israéliens viennent de buter encore un personnage important du régime iranien, on n'est visiblement pas prêt de se serrer la main en signe de détente. La pression sur le baril reste donc bien présente et les quelques millions de barils qui devraient venir ravitailler le monde libre chaque jour restent bloqués de l'autre côté. Les producteurs sont en train de ralentir l'extraction parce qu'on ne peut plus stocker. Et chaque jour qui passe rend la remise en marche post-guerre de plus en plus compliquée. Mais ce qu'il y a de beau dans tout ça, c'est que les réactions du baril aux nouvelles qui sortent à peu près toutes les 5 minutes sont devenues assez clownesques. Et on a vraiment l'impression que le marché est prêt à réagir à n'importe quoi, mais surtout n'importe comment. Et si vous ne me croyez pas, c'est simple, il suffit de regarder le prix du WTI ce matin à l'heure actuelle. Il est à 92,33 en baisse de 3,3%. Et vous savez pourquoi? Parce que le Kurdistan et l'Irak ont conclu un accord pour recommencer à faire sortir du pétrole via le port de Tchéan. Tout le monde est super excité et ça fait baisser le baril de 3,3%. Bon, maintenant, quand on prend le temps de lire le communiqué de presse jusqu'au bout, on apprend que l'Irak va commencer par exporter 100 000 barils par jour. Ha ! 100 000 barils ! Il nous manque 20 millions de barils via le détroit d'Ormuz et le baril perd 3% le jour où on remet, en théorie, 100 000 barils sur le marché. Je ne sais pas ce qu'on consomme comme produit hallucinogène, mais ça doit être très très fort. Et puis alors, au sujet du baril, toujours, hier soir, il y avait les inventaires pétroliers. Ça fait un moment que j'avais plus abordé les sujets, mais comme à 60$, tout le monde s'en foutait, on peut en reparler à 92. Hier, les experts en pétrole prévoyaient que les stocks de pétrole aux États-Unis augmenteraient d'environ 380 000 barils sur une semaine. Évidemment, personne, mais au grand Dieu, personne n'aurait pu supposer, ne serait-ce qu'un seul instant, qu'au vu de la situation géopolitique, politique actuelle, nous puissions avoir eu envie de stocker un peu plus de pétrole juste au cas où. Toujours est-il que l'API a annoncé que les stocks ont augmenté de 6 560 000 barils. En deux mots, on s'est juste gouré de plus de 6 millions de barils et on s'excite de 3,3% sur le prix du brut pour 100 000 barils irakiens. Ça doit vraiment être de la bonne, ou alors on a raté un truc, ou alors le marché est complètement con. Pendant qu'on s'excite sur le pétrole, le détroit d'Ormuz, les stocks irakiens et la Corée du Sud, il y a une chose qui pourrait éventuellement faire diversion, le FOMC meeting. Hier, les membres de la Fed se sont enfermés dans une grande salle avec plein de café et des sandwichs pas terribles, et ils vont ressortir pour annoncer ce qu'ils vont faire avec les taux. Je vous avoue qu'il n'y a pas trop de suspense lorsqu'on voit le prix du pétrole et ce que ça va avoir comme conséquence sur l'inflation ces prochaines semaines. On imagine assez mal que Powell débarque ce soir pour annoncer une baisse des taux, à moins que la CIA ait kidnappé toute sa famille sur ordre du président et le fasse chanter. Autrement, il n'y a virtuellement aucune chance de voir les taux baisser ce soir. Les économistes les plus motivés et les plus optimistes pensent que la Fed baissera les taux une seule fois encore cette année, et ce sera plutôt durant le dernier trimestre 2026. Et encore, si la guerre se termine, si on n'entre pas en récession avant l'été, si Trump ne perd pas les midterms, si le pétrole ne monte pas à 187, ce qui fait quand même pas mal de si à la fin. Donc, pour faire simple, il ne faut rien attendre de concret ce soir. En revanche, tout le monde va se concentrer sur deux choses. D'abord, au point 1, l'analyse au carbone 14 du discours de Powell, au cas où il y aurait une information codée quelque part. Et au point 2, les fameux graphiques des dot plots qui compilent les visions des taux du point de vue des membres de la Fed. Les dot plots sont à prendre avec des pincettes parce qu'à l'heure actuelle, savoir ce que vont faire les taux dans les 18 mois à venir équivaut à mener une politique monétaire en lançant des fléchettes sur une cible avec les yeux bandés. Néanmoins, ça va nous occuper pendant un temps et ça fera diversion par rapport au pétrole. Même si nous sommes tous conscients que porter une vision à 12 mois sur l'économie à l'instant T que nous vivons, c'est totalement utopique et délirant. Mais bon, peu importe, ce soir, il y a la Fed et on va quand même faire semblant de s'y intéresser. Mis à part la tech qui cartonne à l'étranger, mais plus aux USA, le pétrole qui se traite comme un meme stock, la Fed qui va devoir communiquer quelque chose d'intelligent alors qu'ils ne savent vraiment pas quoi faire, on retiendra que Trump est en train de se fâcher avec tout le monde, avec son détroit d'Ormuz, et que ses opposants, c'est-à-dire le reste du monde, se frottent les mains d'avoir réussi à lui dire non. On verra après la guerre comment ça va se finir. Le président américain estime qu'il n'a besoin de personne et ça occupe un peu plus les réseaux sociaux et les chaînes d'infos. Et puis alors, pendant qu'on attend la Fed et le PPI américain et le CPI en Europe, on retiendra aussi la nouvelle politique de la semaine. Et Kim Jong-un vient de remporter les élections parlementaires avec une large majorité de 99,3% de votes en sa faveur. Ce qui revient à dire que dans les prochaines heures, on peut s'attendre à l'assassinat de masse de 180 000 personnes qui n'ont pas voté pour lui. Comme il n'y a pas des tonnes de trucs à raconter et que parfois j'en ai marre de parler pétrole, je vais donc vous conter l'histoire de Swarmer. C'est tout à fait ce genre d'histoire que j'adore dans ce métier et qui me fait me replonger tous les jours dans la lecture du Barron's. Swarmer est une société que personne ne connaissait avant-hier et qui, quelques heures plus tard, valait déjà 350 millions de dollars, comme si elle avait réinventé le concept de la guerre, de l'armement et des drones. Swarmer développe un logiciel qui permet de faire fonctionner des drones en essaim. Autrement dit, de contrôler des dizaines, voire des centaines de drones simultanément, rendant leur neutralisation quasi impossible. Et ce n'est pas un concept théorique. Leur technologie qui est utilisée en Ukraine depuis 2023 avec plus de 100 000 missions de combat à la clé. Sur le papier, l'histoire est sexy. Dans les chiffres, c'est une autre ambiance. En 2025, la société affiche à peine 309 000 dollars de chiffre d'affaires pour une perte de 8,5 millions. Mais elle met en avant un carnet de commandes de 16,3 millions plus 16,8 millions potentiels. Et en bourse, tu ne payes pas le présent, tu payes l'éventuellement peut-être. L'IPO a été pricé à 5$ et ensuite, le titre a ouvert hier et touché les 40$ en séance avant de clôturer à 31$, soit une hausse de 520% en une journée. Résultat, une valorisation de 350 millions de dollars pour une boîte qui ne gagne pas d'argent et qui génère à peine quelques centaines de milliers de revenus. Ce que le marché a acheté, c'est pas Swarmer, c'est le thème, la guerre du futur, les drones, l'IA, le fantasme d'un champ de bataille automatisé. Et dans ce genre de narration, les investisseurs deviennent soudainement très généreux avec l'argent des autres. Mais derrière le storytelling, la réalité reste brutale. Une petite boîte, une dépendance ultra forte à l'Ukraine et surtout une concurrence gigantesque avec des acteurs comme Lockheed ou Northrop qui jouent dans une autre catégorie. Ce genre de mouvement est fascinant, mais il raconte surtout une chose, le marché est prêt à payer très cher une bonne histoire, exactement comment. Et 1999, et comme toujours, tant que tout le monde y croit, ça monte. Le jour où quelqu'un regarde vraiment le bilan et les chiffres, à partir de là, l'atterrissage risque d'être un petit peu plus compliqué. Voilà, les mêmes histoires sont sur la table encore et encore. J'aimerais vous dire qu'on en saura un peu plus ce soir après la Fed, mais j'en doute. Alors d'ici là, passez une excellente journée. Ce soir, je vous publierai une vidéo sur la Fed, justement. Ensuite, demain et vendredi, je serai absent pour aller passer la soirée à Bruxelles sur LN24 avec Tara Bendo. Que la fin de la semaine vous soit belle. Regardez le pétrole et si vous n'arrivez pas à vous endormir, recomptez les barils. On se revoit très vite et très bonne journée.